France Inter. Le 18-20, Pierre Veille.
Voici le téléphone sonne, première partie jusqu'à 18h55. C'est votre émission, la rédaction en chef Philippe Bardonneau, la préparation Irène Menahem, Virginie Rouzic, la réalisation Arnaud Caillet, Ludovic Asselot. On attend vos appels, vos mails. N'hésitez pas, nous échangeons, nous répondons à vos questions sur cette crise du Covid-19 et toutes ses conséquences qui vont se faire sentir de toute façon encore pendant un très long moment. Là, tout de suite, on s'intéresse à la situation dans les EHPAD très durement touchés par l'épidémie. Plus de 6800 personnes sont mortes dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux. Dans certains d'entre eux, on parvient à maîtriser, à contrôler la progression de l'épidémie. Dans d'autres, la situation se détériore très vite. Les visites des proches sont interdites depuis plus d'un mois. Une vaste opération de dépistage massif est lancée. Elle concerne les résidents et les professionnels. Est-ce déjà trop tard? Va-t-on vers une tragédie à grande échelle dans les maisons de retraite? Dans une tribune parue lundi dans Le Monde, 13 élus et responsables de la santé écrivent que la situation actuelle dans les EHPAD est, je cite, « un véritable scandale d'État ». Si vous voulez témoigner, interrogez nos invités sur le sort de nos aînés face à cette calamité du coronavirus. Appelez-nous.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Nos invités pour vous répondre, Michel Delaunay, elle est en ligne avec nous, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées, spécialiste de la dépendance, cancérologue. Elle a publié « Le fabuleux destin des baby-boomers » chez Plon. Bonsoir Madame Delaunay.
Bonsoir.
Pascal Chanvert est également en ligne, au bout d'une ligne numérique. Pascal Chanvert est président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Bonsoir Pascal Chanvert.
Bonsoir.
Et bienvenue à Barbara Filol. Bonsoir Barbara Filol.
Bonsoir.
Secrétaire générale de la CGT des EHPAD publics du Val-de-Marne et membre du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. On va au standard du téléphone sonne, déjà de nombreux appels. Christine est avec nous. Bonsoir Christine.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne et nos invités attendent votre question ou votre témoignage.
Bonsoir. D'abord, merci pour vos émissions qui nous informent et nous soutiennent en cette période difficile.
Merci.
Ensuite, je voulais signaler, voilà, j'ai ma maman qui est en EHPAD dans un village ici dans l'Hérault, à Saint-Mathieu-de-Trévier. D'abord, souligner tous les efforts qui sont faits par la direction et les soignants pour essayer d'entourer les résidents. Et deuxièmement, deux questions. Mon inquiétude porte sur l'état de santé psychologique des résidents, car malgré ces efforts et quelques visites à travers le parc qui ont été mises en place, nous sentons un grand sentiment d'isolement et une grande souffrance due au fait de ne pas pouvoir voir les enfants, les petits-enfants, et surtout de ne pas pouvoir voir les autres résidents depuis plusieurs semaines. Et y compris de pouvoir partager des repas, ça leur est vraiment très très difficile. Donc je voulais savoir s'il y avait une perspective dans les tests sérologiques, car des tests salivaires ont été faits, mais on nous dit que ça n'est pas forcément fiable. Et deuxièmement, quelles sont les modalités qui peuvent être prévues pour le rétablissement de quelques repas en commun entre résidents avec les mesures de distanciation sociale? Parce que depuis maintenant presque 6 semaines, les résidents sont confinés et depuis 3 semaines au moins en chambre, et c'est extrêmement difficile, et on constate, toutes les familles constatent des régressions vraiment importantes sur le plan psychologique. D'ailleurs, à ce sujet, oui, je voudrais dire que le témoignage de certains médecins sur France Télévisions qui parlent d'une hécatombe à venir dans les EHPAD devrait être pris avec précaution, car toutes les personnes dans les EHPAD ne sont pas séniles. Beaucoup d'entre elles suivent la télévision et la radio, et entendre qu'il y aura une hécatombe de plusieurs millions de morts, que l'on ne pourra rien faire, c'est vraiment désastreux, alors qu'on se mobilise actuellement tous pour les soutenir moralement.
Christine, on va répondre à toutes vos questions. Pascal Chanvert, je rappelle, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. C'est vrai que c'est une situation quand même très particulière. Depuis le 11 mars, plus de visites de personnes extérieures dans les EHPAD. Et puis fin mars, on a été encore plus loin avec l'isolement individuel de chaque résident dans les chambres. Est-ce que cette situation peut durer?
Non, et nous l'avons dit clairement au Premier ministre et au ministre de la Santé, non. Il faut prolonger le confinement parce que nous voyons bien, Madame a raison de dire que nous ne sommes pas dans une catastrophe, nous sommes dans une situation grave. Et dans une situation grave, il faut prendre des décisions qui sont adaptées. Et donc, il faut maintenir le confinement parce que c'est le confinement qui permet d'éviter la catastrophe. Mais pour autant, ce confinement qui va se prolonger, il faut l'adapter. Il faut l'adapter à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'il faut un plan massif de recrutement de psychologues dans les établissements, mais aussi dans les services à domicile. C'est un retard considérable dans notre pays. Il faut des psychologues. On en a besoin d'urgence, là, dans la situation très difficile. Et il faudra qu'ils restent dans les établissements. Deuxième élément, il va falloir réouvrir avec des règles de sécurité, de distanciation, les barrières extrêmement, des règles extrêmement claires. Mais il va falloir réouvrir les échanges avec les familles. Et puis, il faudra que les bénévoles puissent revenir. Et enfin, il faudra que les personnes âgées puissent sortir, comme tous les Français, dans le parc ou le jardin de la résidence. Tout cela, bien entendu, en maintenant les distanciations sociales, les mesures barrières, les masques, et peut-être des échanges avec les résidents, mais là encore, extrêmement cadrés dans le cadre de ce que nous avons tous à faire en termes de distanciation sociale et de gestes barrières.
Intervention de Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées.
Alors, je n'ai rien, je suis pleinement en accord avec ce qu'a dit Pascal Chanvert. Je voudrais insister sur un point d'abord, qui est l'urgence du testing systématique à la fois des résidents et du personnel, car bien évidemment, une personne positive est une source d'infection à proximité, et quand le Covid est entré dans un EHPAD, il fait obligatoirement des dégâts importants. Et cela permettrait, ce test systématisé, peut-être d'isoler les malades et de pouvoir en réunir d'autres qui sont négatifs avec toute la prudence qui s'impose. Je veux dire aussi en deux mots que je fais une immense confiance dans les équipes des EHPAD pour interpréter cet isolement à la fois dans la sécurité, mais en trouvant des idées pour qu'il y ait cependant un maintien du contact. Je veux aussi poser une question qui fait débat dans le milieu. J'ai été très, très discutée. Quand il y a eu l'isolement individuel, j'ai proposé que une famille qui voudrait et qui pourrait reprendre momentanément son grand âgé à la maison le puisse, pour éviter la contamination, éviter l'isolement et aussi soulager les équipes. Et je crois que cette possibilité est importante et qu'il faut qu'elle puisse se faire sans que les familles aient à débourser quelque chose.
Alors, on a des remarques d'auditeurs sur le site de l'émission. Et là, je me tourne vers vous, Barbara Filol, je rappelle, secrétaire générale de la CGT des EHPAD publics du Val-de-Marne. Un auditeur nous écrit, il y a donc ces mesures depuis le début du mois de mars, plus de visites de personnes extérieures dans les EHPAD. Et puis, fin mars, on a été encore plus loin avec l'isolement individuel de chaque résident dans les chambres. Et ces précautions, note cet auditeur qui s'appelle Jean Robert, ces précautions n'ont pas empêcher le Covid-19 de faire des ravages dans les EHPAD. Pourquoi ?
D'abord, le Covid-19 est une maladie extrêmement transmissible. Toutes les études le montrent. Mais les résidents sortent peu, en tout cas bien avant l'isolement, les résidents sortaient peu. Et donc, le risque de propagation aujourd'hui, parce que tout le monde est confiné, on sait très bien que c'est parce que le personnel ou des visiteurs vont entrer en étant asymptomatiques et vont le transmettre aux résidents. La difficulté qu'on a avec, enfin en tout cas dans les EHPAD aujourd'hui, ça va être les résidents déambulants. Parce qu'effectivement, on confine en chambre ou en studio selon les normes de l'établissement, l'ensemble des résidents. Le problème, c'est qu'on ne peut pas confiner tout le monde, parce que nous avons des résidents déambulants. Et donc, à partir de là, ils sont facteurs de propagation à l'intérieur de l'établissement de la maladie. Après, il faut comprendre aussi que prendre en charge humainement un résident qui souffre d'isolement, c'est plus compliqué pour le personnel. Parce que les troubles cognitifs se font développer, parce qu'ils ont une perte d'appétit importante, parce qu'ils sont déprimés, parce qu'aujourd'hui, il est difficile de les soutenir plus que nous le faisons faute de moyens et faute de temps, parce que nous n'avons pas d'effectif. Et effectivement, la présence de psychologues supplémentaires est essentielle, mais aussi la présence d'aides-soignantes, d'infirmières, parce que nous avons une charge en soins plus importante et des soins qui se sont compliqués. Comme les résidents sont aussi moins mobilisés, physiquement, puisqu'ils ne sortent pas, ils restent parfois dans leur lit ou toute la journée, ou ils passent du lit au fauteuil. Nous avons aussi des recrudescences d'escarres qui nécessitent des prises en charge plus longues. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'effectif humain pour prendre en charge correctement et dignement toutes ces personnes âgées.
Et je rappelle que vous avez signé cette tribune parue dans Le Monde lundi. Vous parlez d'un véritable scandale d'État. Qui accusez-vous précisément ?
On accuse les gouvernements successifs. Il faut qu'on soit très très clair. Le secteur des EHPAD, dans un intersyndical large, 9 organisations syndicales et deux autres organisations, dont celle de Monsieur Chanvert, depuis 2 ans, on réclame des moyens supplémentaires. Il y a eu 2 rapports. Il y a eu le rapport Ibora, il y a eu le rapport Libo, il y a eu les recommandations de Madame El Khomri sur les métiers du grand âge. Il y a eu la mission Flash. Il y a eu une enquête sénatoriale. Je ne sais pas ce qu'il faut dans ce pays pour comprendre que le cri d'alarme, il y a 2 ans, porté par 11 organisations, on en arrive là aujourd'hui.
Mais Barbara Filol, comment expliquez-vous le fait qu'on ne vous écoute pas ?
Mais parce que c'est très compliqué, la prise en charge de la dépendance. D'abord, il y a un problème humain. Humain, tout simplement, parce qu'on va tous devenir vieux. Et donc, la question de mourir dignement dans notre pays, elle se pose. La prise en charge, ça a un coût. Et la question que se pose le gouvernement aujourd'hui, et la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas le premier euro à mettre dans la dépendance. Il n'y a pas la volonté politique de mettre plus d'argent dans la dépendance. Aujourd'hui, les choses se font à budget constant. Il faut comprendre que la crise du Covid va mettre en difficulté l'ensemble des établissements. Si on demande la réquisition des EHPAD, la réquisition sanitaire des EHPAD privés, ce n'est pas pour rien.
Sur ce que vous venez de dire, Barbara Filol, la réaction de Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, puis après on ira au standard.
Oui, pour aller...
Pascal Chanvert.
Oui, pour aller parfaitement dans le sens de ce que vient de dire Barbara Filol, si l'ensemble des organisations syndicales et j'ai un retour d'une journaliste dans mon...
Pascal Chanvert, vous êtes avec nous. Il y a des problèmes de liaison. C'est pas facile, évidemment. Là, on n'a plus nos invités dans le studio. Ils sont au bout de ligne numérique. Pascal Chanvert, est-ce que vous êtes là ? On vous écoute. J'entends des voix, des discussions, mais malheureusement, je n'entends plus Monsieur Chanvert.
Écoutez, je vais laisser la parole. Je la reprendrai tout à l'heure.
Ah ben là, on vous entend très bien, Monsieur Chanvert. Allez-y.
Oui, je voulais dire mon accord total avec ce qu'a dit Barbara Filol. Si l'ensemble des organisations syndicales et l'ADEPA que nous avons soutenu ont demandé dans l'urgence la création de 2 postes de personnel dans chaque établissement et dans chaque service à domicile, c'est bien qu'il y a un besoin impérieux et majeur. J'ai parlé des psychologues tout à l'heure par rapport à la situation, mais bien entendu que c'est une réflexion globale qu'il va falloir avoir et des actions efficaces de la part du gouvernement. Vous demandiez pourquoi un tel retard. Il y a sans doute l'agisme. L'agisme, c'est discrimination par l'âge qui fait que nous dévalorisons dans notre société tout ce qui concerne l'avancée en âge de chacun d'entre nous et tout ce qui concerne les personnes qui sont très âgées.
Valérie est au standard et patiente depuis quelques instants. Bonsoir Valérie.
Bonsoir à vous. Voilà ma question. Je suis bénévole régulière toutes les semaines. Je chante auprès d'un EHPAD et d'un groupe assez important de résidents. Et j'envisage, après le 11 mai, éventuellement de revenir. Mais je ne reviendrai que si j'ai le test un petit peu avant, vous savez, le test très rapide, où je suis positive ou pas, parce que mon mari est prof. Et je veux dire, en aucun cas, je voudrais décontaminer. Néanmoins, je sais que c'est un groupe qui nous attend. Et j'avoue que je leur dire non, mais à part faire comme ça, je ne vois pas comment je pourrais faire.
Pascal Chambert, sur cette préoccupation de Valérie.
J'ai un problème technique, je vous propose de vous répondre ultérieurement. Excusez-moi, je suis désolé.
Ah, très bien. Pascal Chambert, donc, alors, à plus tard. Je me tourne vers Michel Delaunay, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées, sur cette inquiétude de Valérie.
Valérie a raison, il faut que son test soit négatif. Oui. Vous savez, nous sommes dans une solidarité les uns avec les autres. Et ne pas vouloir contaminer et se confiner est une mesure. Les jeunes le font pour les vieux et les vieux le font pour les jeunes. Mais je veux revenir sur l'urgence de la loi Grand Âge qui, comme cela a été dit, a été repoussée par tous les gouvernements successifs. Nicolas Sarkozy a tiré un trait. Mon gouvernement n'a fait que la première partie de la loi sur le domicile. Et aujourd'hui, alors que la longévité a beaucoup augmenté, ça veut dire aussi qu'il y a plus de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou qui sont dépendantes, cette urgence est très importante. Et elle comporte aussi de revoir le modèle des EHPAD, car je suis sûre que nous serons en accord avec Pascal. Il faut davantage que ce système plus perméable entre le domicile et les EHPAD, et que ces EHPAD constitue un centre de ressources et de rassurement à la fois pour les familles et les grands.
Madame Delaunay, vous êtes ancienne ministre déléguée aux personnes âgées. Lorsque Barbara Filol parle d'un véritable scandale d'État, la situation actuelle des EHPAD, est-ce que vous vous sentez quelque part responsable aujourd'hui de cette situation? Vous avez été ministre sous la présidence de François Hollande. On voit aujourd'hui le résultat. Il y a des insuffisances médicales, d'aide aux personnes âgées. Est-ce que vous estimez que vous avez, vous aussi, une part de responsabilité, Michel Delaunay?
Malheureusement, je n'ai pas pu. Il y a eu un remaniement. Je n'ai pas pu faire la deuxième partie de la loi que je voulais porter. Mais je vais aller plus loin. Je partage cette responsabilité bien profondément. Mais il y a une responsabilité de notre société tout entière dans sa vision du grand âge et dans la place qu'il lui fait. Si vous voulez, je vis très, très douloureusement, justement, cette mise en EHPAD qui, quelquefois, est considéré comme quelque chose de durable et quelque chose de sans retour. Et cela m'inquiète terriblement et je voudrais plus de perméabilité avec le domicile.
On va aller au standard. Frédéric en Saône-et-Loire écoute France Inter et veut participer à notre émission. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
C'est à vous maintenant.
Ouais, alors, excusez-moi, je suis un peu ému. Ma question, elle est là. C'est que, voilà, moi, j'ai une maman qui a 94 ans et qui habite dans la Drôme. Et elle est pas en EHPAD, hein, elle est complètement autonome. Mais par contre, moi, je l'appelle deux fois par jour et on arrive même à se disputer parce que j'ai l'impression qu'elle a un nombre d'informations incroyables. Alors, elle fait partie de ces gens-là qui passent pas mal de temps devant la télévision, des chaînes dont je vous parlerai pas, mais peu importe, et elle comprend rien du tout. Elle est convaincue que le 11 mai,
oui.
Le 11 mai, tout le monde ira dehors, qu'elle, en tant que vieille personne, elle pourra sortir à partir de mi-octobre. Enfin, et je la sens complètement... je suis très ennuyé parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas les bonnes informations et surtout qu'on ne lui donne pas d'informations. Et ça, je trouve ça très compliqué et très dur et... Je vous assure, j'appelle deux fois par jour ma maman pour savoir comment est-ce qu'elle va.
Mais Frédéric, alors c'est à vous de bien l'informer, de la rassurer.
Oui, absolument. Mais sachez que être le fils d'une maman, et je pense que vous savez ce que c'est,
oui.
Et ben c'est pas toujours facile d'être crédible. Alors qu'on passe pas mal de temps devant des chaînes de télévision où on vous dit qu'il y a des centaines de milliers de morts et que ça va être comme ça et que ça va être comme ci et comme là. Donc si vous voulez, on se prend un petit peu la tête. Mais moi je trouve ça tellement triste que une grande partie de ces gens-là soient convaincus que Monsieur Véran ou Salomon ou n'importe qui sont des prêcheurs de bonnes paroles alors que ils sont au courant de rien et ça me rend particulièrement triste. C'est comme si on mettait de côté toute cette population de vieilles personnes. Il y en a beaucoup et voilà, c'était une réaction parce que je vous dis, j'ai ma mère tous les jours et c'est pas tous les jours facile, quoi. Voilà.
Sur ce témoignage de Frédéric, Pascal Chanvert.
Oui, ce monsieur a bien raison. Il y a quelque chose dans la période qui est plus contagieux que le virus, c'est la peur. Et comment on fait pour lutter contre la peur? La première chose, c'est qu'on se protège. La peur, elle peut parfois être bonne conseillère. Et donc, il faut se protéger, rester confiné, appliquer les mesures barrières. Et puis aussi, il faut réfléchir sur ce qu'est sa propre peur. D'où l'intérêt de parler en famille, mais de parler aussi avec des psychologues ou avec des coachs pour faire en sorte qu'on puisse éloigner cette peur de nous. Et puis, troisième élément, il y a effectivement des informations qui sont extrêmement anxiogènes. J'ai des amis qui me disent, mais dans les établissements, alors tout le monde est contaminé et tout le monde va mourir. Il faut bien avoir en tête que pour lutter contre la peur, il faut contextualiser les informations. Bien sûr que la situation est grave et il y a trop de morts dans les établissements, à domicile et dans les hôpitaux aujourd'hui. Pour autant, 98% des personnes âgées qui vivent aujourd'hui en établissement ne sont pas décédées du coronavirus. Et même si parmi eux, il y en a qui sont atteints par le coronavirus, à l'image de ce monsieur italien de 101 ans ou de cette dame anglaise de 103 ans, il y a des gens qui vont guérir, y compris très âgés, du coronavirus.
Question
donc,
d'auditeur.
Il faut bien mesurer la gravité de la situation, mais ne pas en rajouter pour se faire encore plus peur.
Pascal Chanvert, question d'auditeur sur le site de l'émission Un Courriel. Les tests et les masques dont le gouvernement a promis qu'ils seraient déployés dans les EHPAD sont-ils arrivés? Pascal Chanvert.
Il faut des tests dans tous les établissements, dans tous les services à domicile, pour toutes les personnes âgées et pour tous les salariés. Il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de tests. Le gouvernement a décidé de prioriser les établissements. Très bien, mais il faudra très vite en faire à domicile. Par ailleurs, Barbara Filliol l'a un peu dit. Au début de la crise, le ministre l'a confirmé, il n'y avait pas le nombre de masques suffisant, donc un certain nombre de salariés ont contaminé des résidents qui ensuite ont contaminé d'autres salariés ou d'autres résidents.
Barbara Filleul, sur ce point.
La mise en route, en tout cas, de la part du gouvernement pour le secteur médico-social, hein, j'entends par là les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes et vulnérables, ainsi que le milieu du handicap, a été extrêmement longue et douloureuse pour les personnels, c'est-à-dire qu'on est les rois de la débrouille. Très longtemps, on a travaillé avec quasiment rien, ou des ratios tellement faibles qu'on était en capacité de garder notre max que 12 heures.
Mais alors est-ce qu'actuellement, dans le Val-de-Marne, la situation s'améliore? Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT des EHPAD publics du Val-de-Marne. Il y a des tests, il y a des masques?
Sur les tests, il y a plusieurs établissements dans le Val-de-Marne qui ont été testés, aussi bien chez M. Chanvert que dans les EHPAD publics du Val-de-Marne de manière générale, qui ont été testés. Sur la distribution de matériel de masques, c'est moins tendu. Après, il y a du matériel de base très manquant, par exemple les surblouses. Les surblouses, on se débrouille encore à à prendre des vêtements en coton, on se débrouille à les laver, puisqu'elles sont censées être à usage unique, mais nous on les lave parce que c'est la pénurie. Donc ici une vraie question. On a aussi des problèmes pour avoir de l'oxygène pour nos résidents. Puisque en France, il n'y a que deux producteurs d'oxygène et on livre en priorité l'hôpital public et les services de réanimation. Donc forcément, le domicile et les EHPAD ne sont pas en première ligne alors que nous avons des réels besoins. Donc il y a encore de la part du gouvernement des petites choses qu'il faut qu'il règle assez rapidement en lien avec les territoires. Sur ce que disait la bénévole tout à l'heure, sur le fait que dès le 11 mai, elle pourrait éventuellement revenir dans son établissement. Je souhaite effectivement qu'on puisse réouvrir nos établissements rapidement. Cependant, aujourd'hui, les professionnels que nous sommes n'avons toujours pas de date. Et je comprends la question de votre deuxième auditeur qui a sa maman à domicile. Nous n'avons toujours pas de date sur comment ça va se passer pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes vulnérables ou polyhandicapées ou des personnes âgées. De même, est-ce que quand on réouvre nos établissements, nous devons fournir les moyens de protection, j'entends par là masques, surchaussures ou autres, pour éviter la propagation, c'est-à-dire que recréer du lien social, ça veut dire doubler les mesures de protection. S'assurer que les gestes barrières sont faits à l'entrée de l'établissement. S'assurer que tout le monde pose bien et correctement son masque.
Et tout cela est opérationnel. Et tout cela est opérationnel chez vous actuellement dans le Val-de-Marne? Non.
Bah, chez nous, ce qui est opérationnel en partie, c'est la protection des salariés.
Oui.
Nos établissements sont fermés. Nous n'accueillons encore personne, qu'on soit clair. Il n'y a que les professionnels qui rentrent dans les établissements. Nous n'avons pas de bénévoles aujourd'hui à l'intérieur de nos établissements. Seuls les professionnels rentrent.
Au standard du téléphone sonne, il patiente depuis un moment. Luc, bonsoir Luc.
Oui, bonsoir.
Vous êtes au Mans.
Luc, fidèle auditeur de France Inter depuis 52 ans.
C'est magnifique. Merci infiniment. Ouais. La fidélité, merci. C'est bien.
Ouais, France Inter et surtout le téléphone sonne a bercé mon enfance. Donc actuellement, je suis médecin spécialiste en néphrologie et je reviens d'une mission dans les Hauts-de-France, en zone frontalière de la Belgique, où j'ai été réquisitionné par la préfecture puisque le collègue est coincé à l'étranger, n'a pas encore pu être rapatrié. Mmh. Et ce que j'ai constaté, c'est que la situation dans les homes belges, puisqu'on a beaucoup de Français âgés ou même en situation de handicap qui sont résidents de maisons de retraite ou de maisons spécialisées en Belgique par manque de place en France. Et la situation est identique, voire même pire. Le manque de masques, de blouses est identique, voire même pire. Et là, j'avais une patiente qui venait de contracter le Covid-19. Elle est hémodialysée. Et j'ai appelé le home dans lequel elle résidait. Et ils ont fini par tester. C'était la quatrième résidente atteinte. Ils en avaient déjà perdu une. Une autre était hospitalisée et ils ont testé les 53 résidents et donc 30 sur 53 étaient positifs, en sachant que les prélèvements nasaux ne sont positifs que dans 70% des cas. Donc ça veut dire qu'on a peut-être loupé 30% de personnes et l'infirmière que j'avais au téléphone et qui toussait elle-même, le personnel, il y a 50% du personnel salarié qui était positif.
Alors, sur ce constat que vous faites, comment l'expliquez-vous, Luc? Je rappelle, vous êtes médecin, c'est cette dangerosité maximum de ce virus qui va très très vite, qui se propage très très vite?
Oui, alors, deux choses. On a fermé, certes, et confiné les patients, ouais. Mais le personnel soignant et salarié, lui-même, continue à sortir. Et souvent, ouais. Ce sont eux qui ramènent le virus, ils sont porteurs sains, ou peu ou pas symptomatiques, et en fait, ils véhiculent, ils sont moteurs. Donc, des fois, ça me choque, c'est vrai que cette dépression des personnes âgées qui ne voient plus leur famille, alors dans certains endroits, je voyais dans les Hauts-de-France, ils ont fait des systèmes de liaison par tablette, mais ça ne remplace pas les liens affectifs, et peut-être peut-être que des rencontres dans certains parcs qui sont assez larges au pied des maisons de retraite permettraient quand même de faire vivre cette vie affective, et en sachant que l'affection stimule aussi l'immunité. Et en neuropsycho-immunologie, on décrit bien que la dépression favorise l'immunodépression. Donc ça, c'est un phénomène qui est connu en médecine. Et par ailleurs, il faut savoir que la moyenne d'âge des personnes qui décèdent en France est de 83 ans. Donc on sait aussi que les personnes âgées ont un système immunitaire qui est plus défaillant ou qui commence à vieillir lui aussi, et ils ont plus de mal à réagir surtout en manière aiguë. En chronique ça va encore parfois, mais de manière aiguë.
Merci.
Mais on a parfois des surprises, et par exemple j'ai un patient hémodialysé, puisque les insuffisants rénaux en dialyse font partie des populations à risque, et son épouse ont contracté tous les deux le virus, ont été hospitalisés en même temps, et c'est elle qui est décédé, et lui qui sort de l'hôpital actuellement alors qu'il est guéri. Voilà.
Merci Luc de nous avoir appelé. Pascal Chanvert, une réaction à ce témoignage de Luc qui est médecin et qui a découvert la situation à l'étranger, chez nos amis belges.
Alors, il est clair qu'il faut qu'il y ait suffisamment de protection, et je crois entendre qu'en Belgique, la situation du point de vue des masques ou des surblouses est pire qu'en France, et donc évidemment, s'il n'y a pas les protections nécessaires, il va y avoir l'infestation dans certains établissements par le virus. Dès le début, nous avons dit, pour aborder le deuxième volet de ce qu'a dit cet auditeur, nous avons dit qu'il fallait un équilibre entre sécurité et liberté, et un équilibre entre sécurité physique et sécurité psychique. Et le médecin qui vient de s'exprimer est revenu là-dessus. Bien entendu qu'un confinement trop strict entraînerait des décès de personnes âgées pour d'autres motifs que le coronavirus, et notamment essentiellement la dépression. De même, des gens qui, à domicile, ne sont pas très fragilisés, disent, quand ils entendent que les personnes âgées, on nous dit pas qui, certains évoquent les plus de 60 ans, pourraient attendre des mois et des mois sans sortir de chez eux, certains disent clairement, mais moi, je ne tiendrai pas, et ce que je vais faire, c'est me passer par la fenêtre. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ces questions, il faut tenir compte de la santé psychique des gens, et s'agissant des plus de 60 ans jusqu'à 120 ans, il faut les laisser faire leurs propres arbitrages,
Pascal Chanvert,
appliquer les tests barrières, mais rester dans la possibilité de pouvoir sortir s'ils le veulent.
Réaction d'auditeur des mails. Jean-Marie, il a noté que les visites aux résidents seront possibles pour les malades en fin de vie. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son intervention. L'exécutif exclut donc d'aller plus loin. Et notre auditeur ne comprend pas, il dit, n'est-il pas possible d'organiser des rencontres entre les résidents et leurs proches en toute sécurité dans de grands espaces dans les EHPAD? Pascal Chanvert.
Bien entendu, le président de la République a eu raison de rappeler la nécessité de pouvoir avoir des visites en fin de vie, mais il faudra aller au-delà. Nous avons demandé à ce que soit saisi le Comité consultatif national d'éthique dès le début de la crise, et le Comité d'éthique, il dit qu'il va falloir organiser des adaptations, et je suis d'accord avec la proposition de cet auditeur.
Michel Delaunay, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées.
Eh bien, je prolonge la question ou le sujet de l'auditeur, qui est celui de l'isolement. L'isolement en EHPAD, bien évidemment, et je crois, et une fois encore, je dis toute la confiance qui est la mienne, pour que les équipes aménagent cet isolement et permettent des contacts bien avant les derniers moments de la vie. Et car... il faut en effet maintenir la volonté de vivre de ces grands âgés qui sont extrêmement inquiets. Et cela a été dit parce qu'ils mesurent qu'ils sont au front, qu'ils sont la première ligne sur l'échelle du risque. Deuxièmement, il a été évoqué l'isolement au domicile. Eh bien, je crois que là, personnellement, le confinement à domicile, personnellement, en tant que médecin, j'y suis favorable. Parce que quand on a 70 ans, on peut se sentir totalement en forme, mais comme cela a été dit, le système immunitaire est plus fragile, oui. Et le risque d'avoir une forme grave, et donc peut-être d'occuper un respirateur artificiel, ce risque est accru. Cependant, une barrière d'âge qui serait comme un couperet n'est pas raisonnable. Oui. Il faut bien évidemment que le médecin traitant puisse intervenir dans les deux sens, dire à une personne de 60 ans qui a un antécédent pulmonaire ou une maladie immunitaire, lui dire « Madame, vous devez rester confinée, ce ne serait pas prudent », et au contraire, dire à quelqu'un de très actif et qui a un rôle important à jouer dans certaines circonstances, lui dire « Soyez modéré, oui. Mais dans ces circonstances-là, vous pouvez sortir. »
Si je vous comprends
donc,
bien.
Là aussi, oui.
C'est là donc, aussi, vous souhaitez que l'on règle ça au cas par cas, les personnes âgées confinées encore après le 11 mai? Non, c'est plutôt au cas par cas.
Je souhaite qu'on donne une indication, une directive sanitaire, oui. En disant « Attention !» Si vous avez plus de 60 ans, soit 70 ans, 60 ans serait déraisonnable, soyez extrêmement prudent, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant. Mais je crois qu'il est important d'avoir une directive précise pour que chacun de nous, et je fais partie de ces plus de 70 ans, s'interroge pour, à la fois comme individu, mais comme citoyen.
Très bien,
ne
Michel
Delaunay. Pas de risque pour les autres.
Le temps passe très vite. Sans doute le dernier appel au standard du téléphone sonne. Marie, dans les Pays de la Loire. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
C'est à vous. On écoute votre question. Très bien.
Très bien. Oui, bonsoir. En fait, j'interviens. Bon, j'étais un peu choquée par le terme de déambulation là. Ce terme qui a été utilisé beaucoup par l'aide-soignante là. Je pense qu'une personne qui déambule de façon générale, que ça soit d'ailleurs en maison de retraite ou ailleurs, c'est une personne qui s'ennuie. Et oui. Il y a certainement un souci dans les maisons de retraite avant d'ailleurs cette crise sanitaire qu'il va falloir résoudre, c'est comment remettre de la vie dans les maisons seniors, parce que le terme est pas de, c'est aussi un terme que je trouvais un petit peu dur à entendre, et peut-être repenser à faire intervenir des professionnels artistiques, sportifs, pas forcément des bénévoles. Bon, il y a des gens qui sont très bien formés. Je pense qu'une aide-soignante est une aide-soignante, c'est une profession paramédicale, mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément amener de la vie hors médicale. Oui. Quelque chose de, il va falloir repenser ce mode de vie, quoi. Bon, ces personnes ne peuvent plus aller au spectacle, mais le spectacle doit aller à elles. La même chose peut-être pour créer des ateliers. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait bien sûr pouvoir tester des intervenants extérieurs, savoir s'ils ont une immunité ou pas vis-à-vis de la maladie. C'est le moment, je pense, de repenser. Il faut repenser à tout ça pour après. Il ne faut pas que les maisons de retraite refonctionnent comme avant.
Très bien, Marie.
C'est une crise qui doit être nécessaire. Il faut repenser à tout ça.
Et lutter contre l'ennui vécu par, sans doute, de nombreux pensionnaires dans les EHPAD. Pascal Chanvert.
Très rapidement, deux réponses à cette remarque que je partage parfaitement. La première, Barbara Filliol l'a dit, c'est le manque de professionnels. Et il est clair que pour parler comme le président de la République, le jour d'après, les choses devront radicalement changer et il faudra que la France rattrape ses 20 à 30 années de retard par rapport à ses voisins européens. Mais il y a sans doute une deuxième raison que Michel Delaunay a esquissé tout à l'heure. C'est qu'il faudra aussi, et Madame a raison, il faudra que les établissements d'après ne soient plus comme ceux d'avant, du point de vue du nombre de personnel et aussi du point de vue de leur mode de fonctionnement. Et il faudra certainement que les établissements deviennent des domiciles. Et en ce sens, comme l'esquissait l'auditrice, ils deviendront des vrais lieux de vie.
Barbara Filliol, vous partagez ce point de vue très rapidement. C'est la fin de l'émission.
Très très rapidement sur la déambulation, je voulais m'excuser si jamais j'avais choqué les auditeurs, mais c'est ce que nous vivons nous en tant que personnel soignant et professionnel, c'est-à-dire que nous avons des résidents aujourd'hui qui déambulent et qui donc sont facteurs de risque pour l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire pour l'ensemble des personnes qui sont au sein de l'établissement, à la fois des professionnels et à la fois les autres résidents.
Merci à nos invités. Voilà. Merci Michel Delaunay, Pascal Chambert et Barbara Filol. Il est 18h57 et chaque vendredi soir, de 20h à 21h sur France Inter, un artiste nous offre un concert en direct de sa cuisine, lieu essentiel en période de confinement. Ce soir, ce sera sur Inter. Clara Luciani, on a beaucoup de chance. Elle est en ligne avec nous. Bonsoir Clara Luciani. Est-ce que
Bonsoir.
Vous m'entendez? C'est un plaisir de vous entendre dès maintenant. Vous êtes confinée où exactement?
Moi, je suis en Écosse.
En Écosse? Alors expliquez-nous, voilà. comment se fait-il que vous soyez coincée, confinée en Écosse? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien écoutez, après le tourbillon des victoires de la musique, j'avais bien envie de prendre un petit temps pour moi et de partir au vert. Donc je suis venue ici un petit peu dans l'idée d'écrire des chansons au calme, avec de quoi tenir 2 semaines dans ma valise. Et puis il se trouve que le confinement a été annoncé et que je me suis dit bon, mais tant qu'à faire, autant rester ici au vert, parce que voilà, comme de nombreux Parisiens, je loue un tout petit appartement à Paris où j'imagine que c'est très difficile de rester. Voilà.
Et ce confinement en Écosse, il est respecté, il est pratiqué?
Oui. Donc tout le monde respecte ça, à part les moutons qui continuent de nous narguer.
Bien sûr.
Voilà.
Clara Luciani, alors comment occupez-vous vos journées de confinement en Écosse? Vous jouez de la musique avec votre guitare? Vous lisez? Donnez-nous des conseils culturels.
Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés à être créative et à faire de la musique ces jours-ci. Donc, il a fallu que je trouve d'autres passe-temps. Je me suis découvert un talent pour les puzzles. Voilà. Et comme je suis passionnée d'histoire de l'art et que j'aime beaucoup Jérôme Bosch, je viens de finir un 1000 pièces de Jérôme Bosch que j'ai adoré faire. Ça me permet en plus de, vous savez, c'est un grand triptyque, donc ça m'a permis un peu de finalement de l'étudier en profondeur, et puis évidemment aussi de passer un petit peu le temps. Mais si j'ai un conseil à donner aux éditeurs de France Inter, je pourrais leur recommander quand même mon livre préféré, qui est Ligne de faille, de Nancy Huston, s'ils ne l'ont pas lu, qu'ils s'empressent de le faire.
Très bien, c'est noté. Vous avez fait un peu de répétition après le concert ce soir sur France Inter, de 20h à 21h.
Oui, j'ai chauffé ma voix.
Bon, parfait.
J'ai chauffé ma voix au whisky écossais, je devrais être performante.
Impeccable. Sur l'album Sainte Victoire, il y avait Ma Sœur, un extrait. Voilà, ce sera ce soir sur France Inter, Clara Luciani, concert en direct de sa cuisine en Écosse où elle vit confinée. Juste un mot rapide, Clara Luciani, je sais, je suis un admirateur, donc je connais vos goûts, j'ai écouté vos interviews, vous êtes une grande admiratrice de Françoise Hardy, de Nick Cave. Christophe, pour vous, c'est important?
Ah oui, évidemment, oui, très très important, autant pour la musique que pour les mots. C'était un immense, immense poète, un de ceux dont on peut dire qu'il écrivait comme personne. Il n'y a pas beaucoup d'artistes comme ça qui ont presque su inventer un langage parallèle. Je pense à Léo Ferré et naturellement, le deuxième exemple qui me vient, c'est Christophe, que j'ai eu la chance de connaître et que je n'oublierai pas.
Clara Luciani, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous là en Écosse, et rendez-vous tout à l'heure sur Inter, 20h, 21h. Merci.